the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à une session de la 182e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dieter F. Uhrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la cinquième et dernière session de la 182e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et aux amis de partout qui suivent cette session, à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle, sous la direction de Mac Wilberg, et de Ryan Murphy, avec Linda Margetts et Bonnie Goodliff à l'orgue. Le chœur ouvrira cette session en chantant. Ensuite, W. Craig Swick, des 70, fera la prière d'ouverture. Après quoi, le chœur chantera « Venez à Jésus, il vous appelle ».
Our Father in heaven.
Notre Père qui es aux cieux.
We combine in our expression of
nous unissons
love and
pour apprécier
we unite in our faith this day.
Avec amour et nous unir par la foi
for thee and for thy son, Jesus
envers toi, ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions, Père Saint, du privilège qu'est le nôtre d'être ici aujourd'hui et de nous permettre d'être enseignés par des prophètes, voyants et révélateurs vivants. Puissions-nous écouter de tout notre cœur qu'une portion de ton esprit repose sur nous et que dans les foyers à travers le monde, dans les endroits où les saints sont rassemblés, dans les centres de pieux, que le Saint-Esprit puisse descendre, toucher le cœur de beaucoup et se traduire par des actes de gentillesse en nous efforçant de faire en sorte que notre vie ressemble à celle de ton Fils. Nous sommes reconnaissants pour cette saison de Pâques, pour son expiation. Que nos témoignages soient renforcés, que notre foi soit accrue ce jour et que nous puissions changer tout cela ou avoir des actions de gentillesse et quitter cet endroit avec des désirs plus forts. Nous te remercions de la vie de président Monson que tu prolonges. Sois reconnaissant de son amour, de sa compassion, de sa bonté. Nous sommes reconnaissants pour cet exemple pur et ce cœur pur. Que ton esprit nous accompagne à présent par la musique et dans les messages. Que des cœurs puissent changer et être fortifiés. Que la foi s'accroisse, c'est notre prière en toute humilité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre L. Tom Perry et M. Russell Ballard du Collège des Douze Apôtres. Ils seront suivis de O. Vincent Halleck des 70.
I have a very good friend.
J'ai un très bon ami qui m'envoie à chaque conférence générale une nouvelle cravate à porter pendant la session où je prends la parole. Il a très bon goût, ne trouvez-vous pas? Mon jeune ami a quelques graves problèmes et il le limite dans certains domaines, mais dans d'autres, il est extraordinaire. Par exemple, son audace missionnaire égale celle des fils de Mosia. Je pense que c'est parce que la simplicité de sa croyance la rend incroyablement ferme. Je pense que, dans l'esprit de Scott, il est inimaginable que tout le monde ne soit pas membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et que tout le monde n'ait pas lu le livre de Mormon et n'ait pas un témoignage de sa véracité. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à Scott le jour où il a pris seul l'avion pour la première fois pour rendre visite à son frère. Un voisin qui était assis tout près entendit sa conversation avec la personne qui était assise à côté de lui. Bonjour, je m'appelle Scott, et vous? Cette personne lui donna son nom. Qu'est-ce que vous faites? Je suis ingénieur. C'est bien. Où habitez-vous? À Las Vegas. Nous avons un temple là-bas. Est-ce que vous savez où se trouve le temple mormon? Oui. C'est un très beau bâtiment. Vous êtes mormon? Non. Eh bien, vous devriez. C'est une religion formidable. Est-ce que vous avez lu le livre de Mormon? Non. Eh bien, vous devriez. C'est un livre formidable. Je suis tout à fait d'accord avec Scott. Le livre de Mormon est un livre formidable. Les paroles de Joseph Smith, le prophète, citées dans les pages d'introduction du livre de Mormon, m'ont toujours touché. Je dis aux frères que le livre de Mormon était le plus correct de tous les livres de la Terre et la clé de voûte de notre religion. Et qu'un homme se rapprocherait davantage de Dieu en suivant les préceptes que par n'importe quel autre livre. Cette année, dans nos cours d'école du dimanche, nous étudions le livre de Mormon. Lorsque nous nous préparons et participons, soyons motivés à suivre l'exemple audacieux de Scott, de parler de notre amour pour ses écritures spéciales à d'autres personnes qui ne sont pas de notre Église. Un thème dominant du livre de Mormon est exposé dans le dernier verset du premier chapitre de 1 Néphi. Néphi écrit : Mais voici, moi, Néphi, je vais vous montrer que les tendres miséricordes du Seigneur sont sur tous ceux qu'il a choisis à cause de leur foi, pour les rendre puissants au point même d'avoir le pouvoir de délivrance. Je vais parler de la façon dont le livre de Mormon, qui est une expression de la tendre miséricorde du Seigneur, préservée pour ces derniers jours, nous délivre en nous enseignant la doctrine du Christ de la façon la plus pure et la plus correcte. De nombreuses histoires du livre de Mormon sont des histoires de délivrance. Le départ de Léhi dans le désert avec sa famille le délivrait de la destruction de Jérusalem. L'histoire des Jaredites est une histoire de délivrance, tout comme celle des Mulekites. Alma le jeune fut délivré du péché. Les jeunes guerriers d'Élaman furent délivrés au combat. Néphi et Léhi furent libérés de prison. Le thème de la délivrance est évident tout au long du livre de Mormon. Il y a deux histoires dans le livre de Mormon qui sont très semblables et qui contiennent une leçon importante. La première se trouve dans le livre de Mosia, à partir du 20e chapitre. Elle parle du roi Limhi, qui vivait dans le pays de Néphi. Les Lamanites avaient fait la guerre au peuple de Limhi. Suite à cette guerre, les Lamanites permettraient au roi Limi de diriger son peuple, mais il serait en esclavage. C'était une paix très inconfortable. Lorsque le peuple de Limi n'en put plus des sévices des Lamanites, il convainquit le roi de leur livrer bataille. Le peuple de Limi fut vaincu trois fois. De lourds fardeaux lui furent imposés. Finalement, il s'humilia et implora le Seigneur avec ferveur de le délivrer. Le verset 15 du chapitre 21 nous raconte la réaction du Seigneur. Et maintenant, le Seigneur était lent à entendre leurs cris à cause de leurs iniquités. Néanmoins, le Seigneur entendit leurs cris et commença à adoucir le cœur des Lamanites, de sorte qu'ils commencèrent à alléger leur fardeau. Cependant, le Seigneur ne jugea pas bon de les délivrer de la servitude. Peu après, Amon et un petit groupe d'hommes arrivèrent de Zarahemla, et avec Gédéon, l'un des chefs du peuple de Limi, ils élaborèrent un plan qui réussit, et ils s'échappèrent au mauvais traitement des Lamanites. Le Seigneur fut lent à entendre leurs cris. Pourquoi ? À cause de leurs iniquités. La deuxième histoire est semblable à plusieurs égards, mais également différente. Ce récit se trouve dans Mosiah 24. Alma et son peuple s'étaient installés dans le pays d'Élam lorsqu'une armée lamanite franchit les frontières du pays. Ils se réunirent et trouvèrent une solution pacifique. Peu après, les dirigeants lamanites commencèrent à imposer leur volonté au peuple d'Alma et lui firent supporter de lourds fardeaux. Au verset 13, il est dit « Et il arriva que la voix du Seigneur leur parvint dans leur affliction, disant « Relevez la tête et prenez courage, car je connais l'alliance que vous avez faite avec moi. » Et je ferai alliance avec mon peuple et le délivrerai de la servitude. » Le peuple d'Alma fut délivré des mains des Lamanites et retourna sain et sauf rejoindre le peuple de Zarahemla. Quelle était la différence entre le peuple d'Alma et celui du roi Limi? De toute évidence, il y avait plusieurs différences. Le peuple d'Alma était pacifique et plus juste. Ces gens avaient déjà été baptisés et avaient fait alliance avec le Seigneur. Ils s'étaient humiliés devant le Seigneur avant même que leur tribulation ne commence. Étant donné toutes ces différences, il était approprié et juste que le Seigneur les délivre rapidement et miraculeusement de la main qui les gardait en esclavage. Ces Écritures enseignent le pouvoir de délivrance du Seigneur. Les prophéties qui annoncent la vie et la mission de Jésus-Christ nous promettent la délivrance qu'il nous apportera. Son expiation et sa résurrection nous permettent à tous d'être délivrés de la mort physique et, si nous nous repentons, d'être délivrés de la mort spirituelle. Cette libération s'accompagnant des bénédictions de la vie éternelle. Les promesses de l'expiation et de la résurrection, les promesses de délivrance de la mort physique et de la mort spirituelle, Dieu les a faites à Moïse lorsqu'il a dit « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » À l'opposé des croyances magnifiquement conçues pour nous dans les Saintes Écritures, nous trouvons les forces adverses du laïcisme engagées à contester les croyances séculaires des écrits saints, des écrits qui ont guidé tout au long de ces années pour définir les valeurs et les principes éternels de notre conduite, notre vie durant. Elle déclare que les enseignements de la Bible sont faux et ceux du maître périmés. Leur voix clame que chaque homme doit avoir la liberté de fixer ses propres principes. Elles essaient de modifier les droits des croyants, contrairement à ce qui est enseigné dans les Écritures et par les paroles des prophètes. Quelle bénédiction d'avoir le récit de la mission de notre Seigneur et Sauveur exposé dans le livre de Mormon pour ajouter un deuxième témoignage à la doctrine exposée dans la Bible. Pourquoi est-il important que le monde ait à la fois la Bible et le livre de Mormon? Je pense que la réponse se trouve au 13e chapitre de 1 Néphi. Néphi dit, « Et l'ange me parla, disant, ces dernières annales que tu as vues parmi les gentils confirmeront la vérité des premières, qui sont des 12 apôtres de l'agneau, ce qui est la Bible, et feront connaître les choses claires et précieuses qui en ont été ôtées, et feront connaître à toutes les tribus, langues et peuples que l'agneau de Dieu est le Fils du Père éternel et le Sauveur du monde, et que tous les hommes doivent venir à lui, sinon ils ne peuvent être sauvés. Ni la Bible ni le livre de Mormon ne sont suffisants par eux-mêmes. Ils nous sont tous les deux nécessaires pour enseigner et apprendre la doctrine du Christ dans sa totalité. La nécessité de l'autre ne diminue aucun des deux. La Bible et le livre de Mormon sont tous les deux nécessaires à notre salut et à notre exaltation. Comme Ezra Taft Benson l'a si puissamment enseigné, quand ils sont utilisés ensemble, la Bible et le livre de Mormon confondent les fausses doctrines. Je désire terminer en racontant deux histoires. L'une tirée de l'Ancien Testament, l'autre du livre de Mormon, pour montrer comment ces livres fonctionnent en harmonie. L'histoire d'Abraham commence au moment où il est délivré des Chaldéens idolâtres. Sa femme Sarah et lui furent plus tard délivrés de leur chagrin, et il leur fut promis qu'à travers leur postérité, toutes les nations de la terre seraient bénies. L'Ancien Testament contient le récit selon lequel Abraham fait sortir Lot, son neveu d'Égypte, avec lui. Invité à choisir, Lot opta pour la plaine du Jourdain et il dressa sa tente face à Sodome, ville d'une grande méchanceté. La plupart des problèmes que Lot rencontra plus tard dans sa vie, et il y en eut plusieurs, proviennent de la décision prise au départ de placer l'entrée de sa tente en direction de Sodome. Abraham, le père des fidèles, eut une vie différente. Il rencontra bien sûr de nombreuses difficultés, mais il eut une vie bénie. Nous ne savons pas de quel côté était dirigée l'entrée de la tente d'Abraham, mais il y a une forte allusion au dernier verset du 13e chapitre de la Genèse. Il y est dit, « Abraham ou Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. » Je n'en ai pas la certitude, mais je pense personnellement que l'entrée de la tente d'Abraham faisait face à l'autel qu'il avait bâti au Seigneur. Comment suis-je arrivé à cette conclusion? Parce que je connais l'histoire du livre de Mormon où le roi Benjamin donne ses instructions à son peuple lorsque celui-ci se réunit pour entendre son dernier discours. Il demande à ses sujets de placer l'entrée de leur tente face au temple. Nous pouvons être délivrés des voies du mal et de la méchanceté en nous tournant vers les enseignements des Écritures saintes. Le Sauveur est le grand libérateur, car il nous délivre de la mort et du péché. Je déclare que Jésus est le Christ et que nous pouvons nous rapprocher de lui en lisant le livre de Mormon. Le livre de Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ. Les premiers testaments de Jésus-Christ sont l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Bible. Encore une fois, rappelons-nous la façon dont mon ami Scott décrit le livre de Mormon. C'est un livre formidable. Et je vous témoigne qu'une grande partie de la grandeur du livre de Mormon découle de son harmonie avec la Sainte Bible. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Brothers and sisters, according
chers frères et sœurs, selon les Écritures, le liana était une boule ronde d'une exécution habile, dans laquelle il y avait deux aiguilles, l'une d'elles montrant la direction dans laquelle la famille de Lehi devait aller dans le désert. Je pense savoir pourquoi Lehi a été très étonné quand il l'a vu pour la première fois. Parce que je me rappelle ma réaction quand j'ai vu un GPS fonctionner pour la première fois. Selon moi, c'est un appareil moderne d'une exécution habile. Toujours est-il que je ne peux même pas imaginer que ce petit appareil dans mon téléphone puisse indiquer exactement où je suis et me dire exactement comment me rendre où je veux aller. Pour Barbara, ma femme et moi, le GPS est une bénédiction. Pour elle, cela signifie qu'elle n'a pas à me dire d'arrêter pour demander mon chemin. Et pour moi, que j'ai raison quand je dis, je n'ai pas besoin de demander à qui que ce soit. Je sais exactement où je vais. Frères et sœurs, nous avons à notre disposition un outil encore plus remarquable que le meilleur des GPS. Tout le monde s'égare à un moment donné, dans une certaine mesure. C'est l'inspiration du Saint-Esprit qui nous ramène en sécurité sur le bon chemin. Et c'est le sacrifice expiatoire du Sauveur qui nous permet de retourner chez nous. Des sociétés entières, aussi bien que des particuliers, peuvent se perdre. Nous vivons à une époque où une grande partie de ce monde a perdu son chemin, particulièrement en ce qui concerne les valeurs et les priorités au foyer. Il y a 100 ans, le président Joseph F. Smith a relié directement le bonheur à la famille et nous a exhortés à y concentrer nos efforts. Il a dit, il ne peut y avoir de bonheur réel indépendamment du foyer. Il n'y a pas de bonheur sans service. Et il n'y a pas de plus grand service que celui qui fait du foyer une institution divine qui favorise et protège la vie familiale. C'est le foyer qui a besoin d'être réformé. Fin de citation. Ce sont nos foyers, nos familles qui ont besoin d'être améliorés dans ce monde de plus en plus matérialiste et profane. Un exemple frappant en est le mépris croissant pour le mariage, ici aux États-Unis. Plus tôt cette année, le New York Times a rapporté que le pourcentage d'enfants nés de femmes célibataires a franchi un nouveau seuil. Plus de la moitié des naissances issues de femmes américaines de moins de 30 ans a lieu hors mariage. Nous savons aussi qu'aux États-Unis, près de la moitié des couples mariés divorcent. Même les personnes qui restent mariées s'égarent souvent en laissant d'autres choses affecter leurs relations familiales. Le fossé est toujours croissant entre les riches et les pauvres, entre les personnes qui s'efforcent de préserver les valeurs et les engagements familiaux et celles qui les ont abandonnées, est aussi inquiétant. Statistiquement, les personnes qui ont moins d'instruction et conséquemment des revenus plus faibles sont moins susceptibles de se marier et d'aller à l'église et sont beaucoup plus susceptibles de commettre des délits et d'avoir des enfants hors mariage. Et ces tendances sont aussi troublantes dans la plupart du reste du monde. À l'inverse de ce que beaucoup avaient pensé, la prospérité et l'instruction semblent liées à une plus grande probabilité d'avoir des familles et des valeurs traditionnelles. Bien sûr, la vraie question concerne les causes et les conséquences Certaines parties de la société ont-elles des valeurs et des familles plus fortes parce qu'elles sont plus instruites et prospères? Ou sont-elles plus instruites et prospères parce que leurs valeurs et leurs familles sont fortes? Dans notre Église mondiale, nous savons que la réponse est la deuxième option. Quand les gens adoptent les engagements familiaux et religieux des principes de l'Évangile, ils commencent à aller mieux spirituellement et souvent aussi temporellement. Et bien sûr, les sociétés en général sont fortifiées lorsque les familles se renforcent. Les engagements envers la famille et les valeurs sont la cause fondamentale. Presque tout le reste est conséquence. Lorsque des gens se marient et prennent des engagements mutuels, ils augmentent beaucoup leurs chances de bien-être économique. Quand des enfants naissent dans les liens du mariage et ont un père et une mère, leurs chances et leurs probabilités de réussite professionnelle augmentent considérablement. Quand les familles travaillent et jouent ensemble, le voisinage et la collectivité s'épanouissent, l'économie s'améliore et il y a moins besoin de programmes coûteux d'aide gouvernementale. Ainsi, la mauvaise nouvelle est que la destruction de la famille engendre beaucoup de problèmes sociaux et économiques. Mais la bonne nouvelle est que de même que pour toute cause et conséquence, ces problèmes peuvent être résolus si l'on modifie ce qui les engendre. On résout les inégalités en vivant selon des valeurs et des principes corrects. Frères et sœurs, la cause la plus importante de toute notre vie est notre famille. Si nous nous consacrons à cette cause, nous améliorerons tous les autres aspects de notre vie et nous deviendrons, en tant que peuple et en tant qu'Église, un exemple et un phare pour tous les peuples de la terre. Mais cela n'est pas facile. Dans un monde où les cœurs se tournent dans beaucoup de directions et où toute la planète semble se déplacer et changer constamment à un rythme encore jamais imaginé, rien ne reste stable très longtemps. Les styles, les modes, les idées, le politiquement correct et même la perception du bien et du mal changent. Comme le prophète Ésaïe l'a prédit, le mal est appelé bien et le bien mal. Le fossé spirituel augmente encore davantage quand le mal devient encore plus trompeur et subtil et attire les gens à lui comme un aimant obscur, de même que l'évangile de vérité et de lumière attire les personnes honnêtes de cœur et honorables de la terre qui cherchent ce qui est moral et bon. Il se peut que notre nombre soit relativement petit, mais en tant que membres de cette Église, nous pouvons franchir ces gouffres grandissants. Nous connaissons le pouvoir du service centré sur le Christ qui rassemble les enfants de Dieu, quel que soit leur statut spirituel ou économique. Il y a un an, la première présidence nous a invités à participer à une journée de service pour commémorer les 75 ans du programme d'entraide qui aide les gens à devenir autonomes. Nos membres, partout dans le monde, ont donné des millions d'heures de service. L'Église est à Havre, dans cette mer démontée, une ancre dans ces eaux houleuses du changement et de la division, et un phare pour les personnes qui accordent de la valeur à la justice et la recherche. Le Seigneur utilise cette Église comme outil pour attirer ses enfants partout dans le monde vers la protection de son Évangile. L'Esprit d'Élie, qui n'a pas de frontières, est aussi un grand pouvoir dans les desseins du Seigneur pour la destinée éternelle de ses enfants. Comme le dit Malachi, l'Esprit du Saint-Esprit ramène le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. L'Église est un exemple par la façon dont elle tourne le cœur et catalyse le bien dans le monde. Parmi les membres de l'Église qui sont mariés au temple et qui assistent régulièrement aux réunions dominicales, le taux de divorce est nettement inférieur à celui du monde. Et les membres des familles restent plus proches et en communication plus fréquente. La santé de nos familles est meilleure et nous vivons plusieurs années de plus que la moyenne de la population. Nous donnons davantage de nos ressources financières, nous rendons davantage service per capita aux personnes dans le besoin et nous sommes plus susceptibles de faire des études supérieures. Je souligne ces choses non pas pour nous vanter, mais pour témoigner que la vie est meilleure et plus heureuse quand nous tournons notre cœur vers la famille et quand les familles vivent dans la lumière de l'Évangile du Christ. Alors, que pouvons-nous faire pour éviter de nous perdre? Premièrement, je suggère que nous établissions des priorités. Subordonnez tout ce que vous faites à l'extérieur à ce qui se passe à l'intérieur du foyer et que l'extérieur soutienne ce qui se fait à l'intérieur. Souvenez-vous du conseil du président Lee. La partie la plus importante de l'œuvre du Seigneur que vous pourrez accomplir sera celle que vous accomplirez dans votre foyer. Et la citation intemporelle du président David O'Mackay, « Aucun autre succès ne peut compenser l'échec au foyer ». Organisez votre vie personnelle de manière à avoir du temps pour la prière, pour les écritures et pour les activités familiales. Donnez à vos enfants des responsabilités au foyer qui leur apprendront à travailler. Enseignez-leur que la pratique de l'Évangile les éloignera des obscénités, de la permissivité sexuelle et de la violence de l'Internet, des médias et des jeux vidéo. Ils ne s'égareront pas, ils seront préparés à assumer des responsabilités quand elles s'imposeront à eux. Deuxièmement, nous devons faire les choses dans le bon ordre. D'abord le mariage, puis les enfants. Trop de personnes dans le monde ont oublié ce bon ordre des choses et pensent qu'elles peuvent le changer ou même l'inverser. Remplacez toutes vos peurs par la foi. Fiez-vous au pouvoir de Dieu pour vous guider. À vous qui n'êtes pas encore mariés, apportez une attention soigneuse à la recherche de votre conjoint éternel. Jeunes gens, souvenez-vous d'une autre chose que le président Joseph Fielding Smith a dit, F. Smith, parce que le célibat entraîne un minimum de responsabilité, les esprits superficiels le trouvent souhaitable. La faute réelle revient aux jeunes gens. Le laisser-aller de notre époque les éloigne du chemin du devoir et des responsabilités. Les sœurs en sont les victimes, et elles se marieraient si elles le pouvaient et accepteraient avec joie les responsabilités de la vie, de famille. Et à vous, jeunes filles, j'ajouterai qu'elles ne doivent pas non plus perdre de vue cette responsabilité. Aucun métier ne peut vous apporter autant d'épanouissement qu'élever des enfants. Et lorsque vous aurez mon âge, vous vous en rendrez compte encore davantage. Troisièmement, mari et femme, vous devez être des partenaires égaux dans votre mariage. Lisez souvent et comprenez la déclaration sur la famille et suivez-la. Évitez toute domination injuste, sous quelque forme que ce soit. Personne n'est propriétaire de son conjoint ou de ses enfants. Dieu est notre Père à tous et nous a accordé la bénédiction d'avoir notre propre famille, qui était auparavant seulement la sienne, pour nous aider à lui ressembler davantage. Étant ses enfants, nous devons apprendre au foyer à aimer Dieu et à savoir que nous pouvons lui demander l'aide dont nous avons besoin. Tout le monde, marié ou célibataire, peut être heureux et être un soutien dans la famille qui est la sienne. Finalement, utiliser les ressources de l'Église pour la famille. Pour l'éducation des enfants, la famille peut compter sur l'aide de la paroisse. Soutenez les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires et œuvrez conjointement avec eux et tirez pleinement parti des programmes de l'Église pour les jeunes et la famille. Souvenez-vous d'une autre formule perspicace du président Lee qui dit que l'Église est l'échafaudage qui nous sert à édifier des familles éternelles. Cependant, si pour quelque raison que ce soit, vous ou votre famille vous êtes égarés, vous n'avez qu'à appliquer les enseignements du Sauveur contenus dans Luc, chapitre 15, pour revenir sur la bonne voie. Dans ce chapitre, le Sauveur parle des efforts d'un berger cherchant une brebis égarée, d'une femme cherchant une drachme perdue et de l'accueil que le fils prodigue reçoit en revenant chez lui. Pourquoi Jésus a-t-il enseigné ces paraboles? Il voulait que nous sachions qu'aucun de nous ne sera jamais perdu au point de ne pas pouvoir retrouver son chemin grâce à son expiation et à ses enseignements. Si vous vous efforcez de vivre l'Évangile et la doctrine du Christ, le Saint-Esprit vous guidera, vous et votre famille. Vous aurez un GPS spirituel qui vous dira toujours où vous êtes et où vous allez. Je témoigne que le Rédempteur ressuscité de l'humanité nous aime tous et qu'il a promis que si nous le suivons, il nous reconduira en sécurité en la présence de notre Père Céleste, ce dont je témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Comme tous les bons parents, les miens souhaitaient que leurs enfants aient un avenir brillant. Mon père n'était pas membre de l'Église, et du fait de circonstances exceptionnelles, mes parents ont décidé que mes frères et sœurs et moi-même devions partir de chez nous, dans les Samoa américaines, en Océanie, et aller aux États-Unis pour y suivre notre scolarité. La décision de se séparer de nous fut difficile pour mes parents, en particulier pour ma mère. Ils savaient qu'étant placés dans un nouveau cadre, nous rencontrerions des difficultés inconnues. Cependant, ils exécutèrent leur plan avec foi et détermination. Ayant grandi dans un foyer de membres de l'Église, ma mère connaissait les principes du jeûne et de la prière. Et mes parents sentaient que tous les deux, ils avaient besoin de bénédictions des cieux pour aider leurs enfants. C'est dans cet esprit qu'ils commencèrent à consacrer un jour par semaine à jeûner et prier pour nous. Leur vision était de préparer leurs enfants pour un avenir brillant. Ils agirent en accord avec cette vision et ils exercèrent leur foi en recherchant les bénédictions du Seigneur. Grâce au jeûne et la prière, ils reçurent le réconfort, la paix et l'assurance que tout irait bien. Comment pouvons-nous, au milieu des difficultés de la vie, obtenir la vision qui nous est nécessaire pour faire les choses qui nous rapprocheront du Sauveur? Parlant de vision, le livre des Proverbes enseigne cette vérité. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Pour prospérer plutôt que de périr, nous devons parvenir à nous voir tel que le Sauveur nous voit. Le Sauveur a vu davantage dans ces humbles pécheurs qu'il a appelés à le suivre qu'ils ne voyaient en eux-mêmes à l'origine. Il a eu la vision de ce qu'ils pouvaient devenir. Il connaissait leurs qualités, leur potentiel, et il a agi pour les appeler. Ils n'avaient pas d'expérience au départ, mais en le suivant, ils ont vu son exemple, ont été touchés par ses enseignements et sont devenus ses disciples. Le temps est arrivé où certains de ses disciples l'ont quitté parce que les choses qu'ils entendaient étaient difficiles pour eux. Conscient que d'autres pourraient aussi vouloir le quitter, Jésus a demandé aux 12 : Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller ? La réponse de Pierre indique qu'il avait changé et avait la vision de ce qui était le Sauveur. Il a répondu, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Fort de cette perspective, ses disciples fidèles et dévoués ont été capables de faire des choses difficiles en voyageant pour prêcher l'Évangile et établir l'Église après le départ du Sauveur. Certains d'entre eux ont par la suite fait le sacrifice suprême pour leur témoignage. Il y a dans les Écritures d'autres exemples de personnes qui ont eu la vision et le témoignage de l'Évangile et ont ensuite agi en accord avec cette vision. Le prophète Alma a acquis sa vision en entendant Abinadi enseigner et témoigner avec ardiesse devant le roi Noé. Il a agi en accord avec les enseignements d'Abinadi et est allé enseigner ce qu'il avait appris, baptisant de nombreuses personnes qui croyaient en ses paroles. Alors qu'il persécutait les premiers saints, l'apôtre Paul a été converti sur la route de Damas et a ensuite agi en enseignant le Christ et en témoignant de lui. À notre époque, beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles, ainsi que des couples d'âge mûr, ont répondu à l'invitation d'un prophète de Dieu à remplir une mission. Avec foi et courage, ils quittent leur foyer et tout ce qui leur est familier, ayant foi dans le grand bien qu'ils peuvent faire en tant que missionnaires. En agissant en accord avec la vision qu'ils ont de leur service, ils apportent des bénédictions à de nombreuses personnes et changent eux-mêmes par la même occasion. Au cours de la dernière conférence générale, le président Munson nous a remerciés pour les services que nous nous rendons les uns aux autres et nous a rappelé que notre responsabilité d'être les mains de Dieu pour faire du bien à ses enfants ici-bas. La réponse à cette recommandation a fait plaisir à voir car les membres de l'Église ont agi en accord avec sa vision. Avant de quitter ce monde, le Sauveur, comprenant que nous aurions besoin d'aide, a déclaré « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Il a enseigné à ses disciples « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est ce même Saint-Esprit qui peut nous donner le pouvoir et la motivation de faire ce que le Sauveur et nos prophètes et apôtres actuels nous enseignent. » Quand nous mettons en action les enseignements de nos dirigeants, nous acquérons une compréhension plus profonde de la vision du Sauveur pour nous. Tout au long de cette conférence, nous avons reçu des conseils inspirés de prophètes et d'apôtres. Étudiez leurs enseignements et réfléchissez-y dans vos cœurs, en recherchant l'aide du Saint-Esprit pour acquérir la vision de ces enseignements. Avec cette vision, exercez votre foi en agissant selon leurs conseils. Sondez les Écritures afin de recevoir davantage de compréhension et de connaissance au sujet des messages qu'ils vous ont adressés. Réfléchissez-y dans votre cœur et laissez-les vous inspirer, puis agissez selon cette inspiration. Comme nous l'avons appris dans notre famille, nous agissons quand nous jeûnons et prions. Alma a dit du jeûne et de la prière que c'était le moyen d'acquérir une conviction sûre quand il a dit « J'ai jeûné et prié de nombreux jours afin de connaître ces choses par moi-même ». Nous apprenons, nous aussi, comment faire face aux difficultés de la vie en jeûnant et en priant. Nous avons eu au cours de notre vie des expériences difficiles qui peuvent parfois réduire notre vision et la foi de faire ce que nous devons. Nous devenons si occupés que nous nous sentons souvent surchargés et incapables de faire davantage. Bien que nous soyons tous différents, je suggère humblement que nous devons tous concentrer notre vision sur le Sauveur et ses enseignements. Qu'a-t-il vu en Pierre, Jacques et Jean et en d'autres apôtres qui l'a incité à agir pour les inviter à le suivre? Comme pour eux, le Sauveur a une grande vision de ce que nous pouvons devenir. Il nous faudra la même foi et le même courage qu'avaient les premiers apôtres pour nous reconcentrer sur les choses qui comptent le plus, pour obtenir un bonheur durable et une grande joie. Quand nous étudions la vie du Sauveur et ses enseignements, nous le voyons parmi le peuple enseignant, priant, fortifiant et guérissant. Quand nous prenons exemple sur lui et faisons ce que nous le voyons faire, nous entrevoyons ce que nous pouvons devenir. Vous aurez la bénédiction d'avoir plus de clairvoyance grâce à l'aide du Saint-Esprit pour faire davantage de bien. Des changements commenceront à se produire et vous instaurerez dans votre vie un ordre différent qui sera une bénédiction pour vous et pour votre famille. Au cours de son ministère parmi les Néphites, le Sauveur a demandé « Quelle sorte d'homme devriez-vous être ?» Il a répondu « Tel que je suis. » Nous avons besoin de son aide pour devenir semblable à lui. Et il nous a montré le chemin. C'est pourquoi demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit et l'on ouvre à celui qui frappe. Je sais que si nous voyons comme le Sauveur nous voit et agissons selon cette perception, notre vie sera bénie au-delà de nos attentes. Grâce à la vision de mes parents, non seulement j'ai bénéficié d'expériences éducatives, mais j'ai également été placé dans des circonstances où j'ai trouvé et accepté l'Évangile. Chose plus importante encore, j'ai appris comme il est important d'avoir des parents bons et fidèles. Pour dire les choses simplement, ma vie a changé pour toujours. De même que la vision de mes parents les a amenés à jeûner et prier pour le bien-être de leurs enfants, et de même que celle des premiers apôtres les a amenés à suivre le Sauveur, de même cette vision nous est accessible et nous inspirera et nous aidera à agir. Frères et sœurs, nous sommes un peuple doté d'un héritage de vision, et de foi et de courage d'agir. Regardez où nous sommes arrivés et les bénédictions que nous avons reçues. Croyez que le Seigneur peut vous donner en bénédiction la vision et le courage d'agir. Je vous rends mon témoignage du Sauveur et de son désir de nous voir revenir à lui. Pour ce faire, nous devons avoir la foi d'agir, de le suivre et de devenir semblable à lui. Tout au long des différentes périodes de notre vie, il nous tend la main et nous lance cette invitation. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le Sauveur voit en nous le même grand potentiel qu'il a vu en ses premiers disciples. Efforçons-nous de nous voir comme le Sauveur nous voit. Je prie pour que nous ayons cette vision et la foi et le courage d'agir. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Ô vaillant guerrier d'Israël ». À la fin de ce cantique, nous entendrons Larry E. Wilson, David F. Evans et Paul B. Piper des 70. Ils seront suivis de Neil L. Anderson du Collège des 12 Apôtres.
This is the 182nd annual General Conference.
Vous assistez à la 182e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Oh, A month or so after we were married,
notre mariage, près d'un mois après notre mariage, ma femme et moi faisions un long voyage en voiture. Elle conduisait et j'essayais de me détendre. Je dis « j'essayais » parce que l'autoroute sur laquelle nous roulions avait la réputation d'être pleine de radars et ma femme avait alors légèrement tendance à avoir le pied lourd. Je lui ai dit « tu roules trop vite, ralentis ». Ma jeune épouse s'est dit « je conduis depuis près de 10 ans et à part mon moniteur d'auto-école, personne ne m'a jamais dit comment je devais conduire ». Elle a donc répliqué « qu'est-ce qui te donne le droit de me dire comment conduire ?» Franchement, sa question m'a pris de court. Cependant, faisant de mon mieux pour être à la hauteur de mes nouvelles responsabilités d'homme marié, j'ai dit « je ne sais pas, parce que je suis ton mari et que je détiens la prêtrise ». Mes frères, un bref conseil. Si jamais vous vous trouvez dans une situation semblable, ce n'est pas la bonne réaction. Et je suis heureux de dire que c'est la seule fois où j'ai commis cette erreur. Les doctrines et alliances expliquent que le droit d'exercer la prêtrise dans le foyer ou ailleurs est directement lié à la justice de notre vie. Les pouvoirs du ciel ne peuvent être maîtrisés ou utilisés que selon les principes de la justice. Et plus loin, nous lisons que nous perdons ce pouvoir lorsque nous exerçons, avec quelque degré d'injustice que ce soit, une emprise, une domination ou une contrainte sur l'âme des autres. Cette écriture dit que nous devons diriger selon les principes de la justice. Ces principes s'appliquent à tous les dirigeants de l'Église, ainsi qu'à tous les pères et à toutes les mères dans leur foyer. Nous perdons notre droit à la compagnie de l'Esprit du Seigneur et l'autorité que nous avons reçue de Dieu lorsque nous exerçons une emprise sur une autre personne de manière injuste. Nous pouvons penser que de telles méthodes sont pour le bien de la personne contrôlée. Mais chaque fois que nous forçons quelqu'un qui peut ou devrait exercer son libre arbitre moral à faire ce qui est juste, nous agissons injustement. Quand les limites fermes que nous fixons à quelqu'un sont dans le bon ordre, elles doivent toujours être gérées avec une patience empreinte d'amour et permettre d'enseigner des principes éternels. Nous ne pouvons forcer personne à faire ce qui est bien. Les Écritures expliquent clairement que Dieu n'agit pas ainsi. La contrainte provoque du ressentiment. Elle donne aux personnes le sentiment qu'on ne leur fait pas confiance et qu'elles sont incompétentes. Les occasions d'apprendre sont perdues lorsque les personnes qui contrôlent supposent avec orgueil qu'elles ont la bonne réponse pour les autres. Les Écritures nous disent « il est de la nature et des dispositions de presque tous les hommes de commencer à exercer cette domination injuste. Nous devrons donc avoir conscience que c'est un piège dans lequel on tombe facilement. Les femmes peuvent aussi exercer une domination injuste, bien que les Écritures identifient le problème avec les hommes en particulier. La domination injuste est souvent accompagnée de critiques constantes et de refus d'approuver ou d'exprimer de l'amour. Les personnes qui sont au bout de la chaîne finissent par avoir le sentiment de ne jamais pouvoir plaire à de tels dirigeants ou parents et qu'elles ne sont jamais à la hauteur. Les parents sages doivent évaluer quand les enfants sont prêts à commencer à exercer leur libre arbitre dans un domaine particulier de leur vie. Mais si les parents détiennent tout le pouvoir de décision et le voient comme leur droit, ils limitent gravement la progression et le développement de leurs enfants. Nos enfants sont dans notre foyer pour un temps limité. Si nous attendons le jour où ils nous quitteront pour leur confier les rênes de leur libre arbitre moral, nous attendons trop longtemps. Ils n'acquerront pas soudainement la capacité de prendre de sages décisions, s'ils n'ont jamais été libres de prendre d'importantes décisions lorsqu'ils étaient dans notre foyer. Souvent, ces enfants se rebellent contre cette contrainte ou sont handicapés par une incapacité de prendre eux-mêmes une quelconque décision. Les parents sages préparent leurs enfants à s'en sortir sans eux. Il leur donne des occasions de progresser à mesure que les enfants acquièrent la maturité spirituelle nécessaire pour exercer correctement leur libre arbitre. Et oui, cela signifie que les enfants feront parfois des erreurs et apprendront de ces erreurs. Notre famille a eu une expérience qui nous a enseigné à aider nos enfants à développer leur capacité à faire des choix. Notre fille Marie jouait au football et elle était titulaire. Une année, son équipe a atteint la finale et vous vous en doutez bien, le match avait lieu un dimanche. Marie était alors au début de l'adolescence et cela faisait des années qu'on lui avait enseigné que le jour du sabbat est un jour de repos et de régénération spirituelle, non de divertissement. Mais elle ressentait quand même la pression de ses entraîneurs et de ses coéquipières pour jouer, ainsi que le désir de ne pas abandonner son équipe. Elle nous a demandé ce qu'elle devrait faire. Ma femme et moi aurions facilement pu prendre la décision pour elle. Cependant, après y avoir réfléchi et avoir prié à ce sujet, nous avons décidé que dans ce cas, notre fille était prête à assumer la responsabilité spirituelle de sa propre décision. Nous avons lu ensemble des Écritures, puis nous avons incité Marie à prier et à méditer à ce sujet. Au bout de quelques jours, elle a annoncé sa décision. Elle jouerait le match du dimanche. Que devions-nous faire alors? Après en avoir de nouveau discuté et avec l'assurance de l'esprit, nous avons fait comme promis et l'avons laissé faire son choix de jouer. À la fin du match, Marie est allée lentement vers sa mère qui l'attendait. Elle a dit « Oh maman, je me suis senti très mal. Je ne veux plus jamais me sentir comme ça. Je ne jouerai plus jamais un match le jour du sabbat. » Et elle ne l'a jamais refait. Marie avait maintenant assimilé le principe du respect du jour du sabbat. Si nous l'avions forcée à ne pas jouer ce match, nous l'aurions privée d'une précieuse occasion d'apprendre avec l'esprit. Comme vous pouvez le voir, aider les enfants à exercer correctement leur libre arbitre nécessite de leur enseigner comment prier et recevoir des réponses à leurs prières. La valeur et le but de l'obéissance, ainsi que tous les autres principes essentiels de l'Évangile, doivent leur être enseignés. En élevant nos enfants, nous avons décidé que notre objectif le plus important serait de les aider à avoir leur propre lien avec les cieux. Nous savions qu'au final, il faudrait qu'ils s'appuient sur le Seigneur, non sur nous. Brigham Young a dit « Si je devais faire la distinction dans tous les devoirs qui sont requis des enfants des hommes, je mettrais en tout premier lieu le devoir de rechercher le Seigneur notre Dieu jusqu'à ce que nous ouvrions des voies de communication du ciel à la terre, de Dieu à notre âme. » Marie avait reçu des réponses à ses prières à d'autres occasions et nous savions que notre fille était en train d'établir cette voie de communication avec les cieux. Ainsi, elle avait appris quelque chose de positif de son expérience et était mieux équipée pour faire de meilleurs choix à l'avenir. Sans un lien avec l'esprit, les enfants comme les parents pourraient se justifier de prendre de mauvaises décisions au nom de leur exercice du libre-arbitre. La promesse des Écritures est que ceux qui sont sages ont pris l'Esprit Saint pour guide et n'ont pas été trompés. Un effet secondaire et tragique d'une domination injuste peut être la perte de la confiance en l'amour de Dieu. J'ai connu des personnes qui ont eu des dirigeants ou des parents exigeants et directifs, et elles ont eu des difficultés à ressentir l'amour de leur Père Céleste qui les soutiendrait et les motiverait sur la voie de la justice. Si nous voulons aider les personnes qui sont sous notre intendance à avoir ce lien si important avec le ciel, nous devons être le genre de parents et de dirigeants décrits à la section 121 des Doctrines et Alliances. Nous devons agir uniquement par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère. Henry B. Eyring a dit « La plus grande des aides que nous pourrons apporter à ces jeunes sera de leur faire sentir que nous sommes confiants qu'ils sont sur le chemin qui les ramènera à Dieu et qu'ils peuvent y arriver. » Tandis que nous réfléchissons aux principes qui nous guident dans l'Église et au foyer, je conclurai par un exemple tiré de la biographie du président Monson. Anne Dibb, la fille de frère et sœur Monson, a dit qu'encore aujourd'hui, quand elle passe le pas de la porte de la maison où elle a grandi, son père dit « Oh, regardez qui est là, comme nous sommes ravis et comme elle est belle. » Elle poursuit, mes parents me complimentent toujours, quelle que soit mon apparence ou ce que je fais. Quand je rends visite à mes parents, je sais que je suis aimé. Je suis complimenté. Je me sens la bienvenue. Je suis chez moi. Mes frères et sœurs, c'est la façon d'agir du Seigneur. Même si nous avons été maltraités par le passé, je sais que le Seigneur veut que nous allions à lui. Il nous aime tous. Nous sommes tous les bienvenus. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Pendant toute cette conférence et dans d'autres réunions récentes, beaucoup d'entre nous se sont demandé « Que puis-je faire pour contribuer à l'édification de l'Église du Seigneur ?» et voir une progression réelle là où je vis. Dans cet effort important et dans tous les autres, notre œuvre la plus importante est toujours accomplie dans notre propre foyer et notre famille. C'est au sein de la famille que l'Église est établie et que la véritable progression se produit. Nous devons enseigner à nos enfants les principes et la doctrine de l'Évangile. Nous devons les aider à avoir foi en Jésus-Christ et les préparer au baptême quand ils ont 8 ans. Nous devons être fidèles nous-mêmes afin qu'ils voient notre exemple d'amour pour le Seigneur et son Église. Cela aide nos enfants à ressentir la joie de respecter les commandements, le bonheur d'être en famille et la gratitude de servir les autres. Dans notre foyer, nous devons suivre le modèle donné par des filles, quand il a dit « Nous travaillons diligemment à persuader nos enfants de croire au Christ et d'être réconciliés avec Dieu. Nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ et nous écrivons selon nos prophéties afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Nous travaillons diligemment à apporter ces bénédictions à nos enfants en allant à l'église avec eux, en tenant la soirée familiale et en lisant les Écritures ensemble. Nous prions tous les jours avec notre famille, acceptons des appels, rendons visite aux malades et aux personnes qui se sentent seules et faisons d'autres choses qui permettent à nos enfants de savoir que nous les aimons et que nous aimons notre Père Céleste, son Fils et leur Église. Nous parlons du Christ et nous prophétisons à son sujet quand nous faisons une leçon de soirée familiale ou quand nous nous asseyons avec un enfant pour lui dire notre amour pour lui et rendre notre témoignage de l'Évangile rétabli. Nous pouvons écrire sur le Christ en envoyant des lettres aux personnes qui sont loin. Cela fait du bien aux missionnaires, à nos fils et à nos filles, à l'armée, à d'autres personnes que nous aimons quand nous leur écrivons. Les lettres venant du pays ne sont pas de rapides emails. Les vraies lettres sont quelque chose de tangible que l'on peut tenir, auquel on peut réfléchir et que l'on peut chérir. Nous aidons nos enfants à se reposer sur l'expiation du Sauveur et à connaître le pardon d'un Père céleste aimant et en montrant nous-mêmes de l'amour et du pardon dans notre façon de les élever. Non seulement notre amour et notre pardon rapprochent nos enfants de nous, mais ils augmentent aussi leur foi, car ils savent que leur Père céleste les aime et leur pardonnera s'ils se repentent et s'efforcent de faire mieux et d'être meilleurs. Ils ont confiance en cette vérité parce qu'ils ont vécu la même chose avec leurs parents terrestres. En plus de l'œuvre que nous allons faire dans notre propre famille, Néphi enseigne que nous travaillons diligemment à persuader nos frères de croire au Christ et d'être réconciliés avec Dieu. En tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous avons tous la bénédiction et la responsabilité de parler de l'Évangile. Certaines des personnes qui ont besoin de l'Évangile dans leur vie ne sont pas encore membres de l'Église. D'autres étaient parmi nous à un moment donné, mais ont besoin de ressentir de nouveau la joie qu'elles ont eue lorsqu'elles ont accepté l'Évangile précédemment dans leur vie. Le Seigneur aime aussi bien la personne qui n'a jamais eu l'Évangile que celle qui retourne à lui. À lui et à nous, peu importe. Tout cela n'est qu'une seule œuvre. C'est la valeur des âmes, quelle que soit leur situation, qui est grande aux yeux de notre Père Céleste, de son Fils et à nos yeux. L'œuvre de notre Père Céleste et de son Fils est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de tous ses enfants, quelle que soit leur situation actuelle. C'est pour nous une bénédiction que de participer à cette grande œuvre. Le président Monson a expliqué comment nous pouvons aider lorsqu'il a dit « Nos expériences missionnaires doivent être actuelles. Il ne suffit pas de rester en spectateur et de méditer à des expériences passées. Pour être accompli, on doit continuer à faire connaître l'Évangile d'une manière naturelle et normale. Faire connaître l'Évangile d'une manière naturelle et normale aux personnes que nous aimons sera l'œuvre et la joie de notre vie. Je vais vous raconter deux expériences de ce genre. Dave Orchard a grandi à Salt Lake City, où la plupart de ses amis étaient membres de l'Église. Ils avaient une grande influence sur lui. En plus de cela, les dirigeants de l'Église de son quartier l'invitaient constamment aux activités. Il n'est pas devenu membre de l'Église à ce moment-là, mais son enfance a été marquée par l'influence de bons amis qui étaient saints des derniers jours et d'activités patronnées par l'Église. Lorsqu'il est arrivé à l'université, il a déménagé et la plupart de ses amis sont partis en mission. Leur influence lui a manqué. L'un de ses camarades du secondaire était toujours chez lui. Cet ami voyait son évêque chaque semaine afin de remettre sa vie en ordre et de pouvoir faire une mission. Dave et lui sont devenus colocataires, et naturellement et normalement, ils ont parlé de la raison pour laquelle ils n'étaient pas missionnaires et pour laquelle ils voyaient fréquemment l'évêque. L'ami a exprimé sa reconnaissance et son respect pour son évêque et la possibilité de se repentir et de servir. Il a alors demandé à Dave s'il voulait venir au prochain entretien. Quelle invitation! Mais compte tenu de leur amitié et de leur situation, c'était tout à la fois normal et naturel. Dave a accepté et a eu bientôt lui-même des rendez-vous avec l'évêque. Cela l'a conduit à sa décision de rencontrer les missionnaires. Il a reçu le témoignage de la véracité de l'Évangile et la date de baptême a été fixée. Il a été baptisé par son évêque et un an plus tard, Dave Orchard et Catherine Evans se sont mariés au temple. Ils ont 5 beaux enfants. Catherine est ma petite sœur. Je serai à jamais reconnaissant envers ce bon ami qui, avec un bon évêque, a amené Dave dans l'Église. En parlant de sa conversion et en rendant témoignage au sujet de ces événements, Dave a posé cette question. Alors, est-ce que cela en valait la peine? Tous les efforts de mes amis, des dirigeants, des jeunes et de mon évêque, pendant toutes ces années, tout cela en valait-il la peine pour seulement un garçon baptisé? Montrant du doigt Catherine et ses 5 enfants, il a dit, « Eh bien, au moins pour ma femme et nos 5 enfants, la réponse est oui. » Chaque fois que l'on fait connaître l'Évangile, ce n'est jamais pour un seul garçon. Chaque fois qu'il y a une conversion ou que quelqu'un retourne au Seigneur, c'est une famille qui est sauvée. Quand ils ont grandi, les enfants de Dave et Catherine ont tous accepté l'Évangile. Une fille et 2 fils ont fait une mission et un autre vient de recevoir son appel pour la mission germanophone des Alpes. Les 2 aînés se sont mariés au temple et le plus jeune est maintenant au lycée et est fidèle à tout point de vue. Cela en valait-il la peine? Oh que oui, ça en valait la peine. Sœur Eileen Waite a assisté à la conférence de Pieux lors de laquelle Dave Orchard a raconté son expérience de conversion. Pendant toute la conférence, elle n'a pas arrêté de penser à sa propre famille et particulièrement à sa sœur, Michelle, qui s'est éloignée de l'Église depuis longtemps. Michelle était divorcée et essayait d'élever 4 enfants. Eileen s'était sentie poussée à lui envoyer un exemplaire du livre de M. Russell Ballard intitulé « A Search for Happiness » avec son témoignage et ce qu'elle a fait. La semaine suivante, une autre amie lui a dit qu'elle aussi avait eu le sentiment qu'elle devait prendre contact avec Michelle. Cette amie a également écrit un petit mot à Michelle pour lui rendre témoignage et exprimer son amour. N'est-ce pas intéressant comme, souvent, l'esprit agit sur plusieurs personnes pour aider quelqu'un dans le besoin? Le temps passé, Michelle a appelé Eileen et l'a remerciée pour le vivre. Elle a dit qu'elle commençait à se rendre compte du vide spirituel qu'il y avait dans sa vie. Eileen lui a dit qu'elle savait que la paix qu'elle recherchait se trouvait dans l'Évangile. Elle lui a dit qu'elle aimait et qu'elle voulait qu'elle soit heureuse. Michelle a commencé à faire des changements dans sa vie. Bientôt, elle a rencontré un homme qui était pratiquant dans l'Église. Ils se sont mariés et un an plus tard ont été scellés dans le temple d'Ogden. Récemment, son fils de 24 ans s'est fait baptiser. Aux autres membres de la famille de Michelle et à toutes les autres personnes qui ne savent pas encore que cette Église est vraie, je lance l'invitation de se demander si l'Église est vraie. Permettez à votre famille, à vos amis et aux missionnaires de vous aider. Quand vous saurez qu'elle est vraie, et elle l'est, joignez-vous à nous en franchissant la même étape dans votre vie. Le reste de cette histoire est encore à écrire, mais cette femme merveilleuse et sa famille ont reçu des bénédictions quand les personnes qui l'aiment ont suivi une inspiration, lui ont rendu témoignage d'une manière naturelle et normale et l'ont invité à revenir. J'ai beaucoup réfléchi à ces 2 expériences. Un jeune homme qui s'efforçait de mettre sa vie en ordre a aidé un autre jeune homme qui recherchait la vérité. Une femme a parlé de son témoignage et de sa foi à sa sœur, qui est éloignée de l'Église depuis 20 ans. Si nous prions pour demander à notre Père Céleste que nous pouvons aider, et si nous promettons de suivre l'inspiration qu'il nous donnera sur la manière d'aider, il répondra à nos prières et nous deviendrons des instruments entre ses mains pour accomplir son œuvre. C'est le fait de suivre les murmures de l'Esprit avec amour qui devient le catalyseur du changement. Vous avez écouté ces récits au sujet de personnes qui ont parlé de l'Évangile naturellement et normalement à des personnes dont elles se souciaient. Et beaucoup d'entre vous ont eu la même expérience qu'Aileen Waite. Vous avez pensé à une personne avec qui prendre contact pour l'inviter à revenir ou lui dire ce que vous éprouvez pour l'Évangile de Jésus-Christ. Je vous invite à suivre cette inspiration sans délai. Parlez à votre ami ou aux membres de votre famille. Faites-le de manière naturelle et normale. Dites-leur votre amour pour eux et pour le Seigneur. Les missionnaires peuvent vous aider. Mon conseil est le même que celui que le président Monson a donné tant de fois à cette chaire. Ne tardez jamais à suivre une inspiration. En suivant l'inspiration et en le faisant avec amour, regardez comme notre Père Céleste se sert de votre bonne volonté d'agir pour accomplir un miracle dans votre vie et dans celle de la personne dont vous vous souciez. Mes chers frères et sœurs, nous pouvons édifier son Église et voir une progression réelle si nous nous efforçons d'apporter les bénédictions de l'Évangile à notre famille et aux personnes que nous aimons. Cette œuvre est celle de notre Père Céleste et de son Fils. Je sais qu'ils vivent et qu'ils répondent aux prières. Si nous suivons cette inspiration, ayant foi en la capacité de Dieu de réaliser un miracle, des miracles se produiront et des vies seront changées. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Environ 1500 ans avant Jésus-Christ, un berger a été attiré par un buisson ardent sur les pentes du mont Horeb. Cette rencontre divine a marqué le début de la transformation de Moïse, de berger à prophète, et de son travail de gardien de troupeau à rassembleur d'Israël. 1300 ans plus tard, un jeune prêtre privilégié de la cour d'un roi a été captivé par le témoignage d'un prophète condamné. Cette rencontre a marqué le début de l'évolution d'Alma, de serviteur du roi à serviteur de Dieu et de son but de la recherche du standing au sein de service. Près de 2000 ans plus tard, un garçon de 14 ans est allé dans les bois à la recherche de la réponse à une question sincère. La rencontre qu'a faite Joseph Smith dans le bosquet allait faire de lui un prophète et amener le rétablissement. Moïse, Alma et Joseph Smith ont tous été changés par leur rencontre avec le divin. Ces expériences leur ont donné la force de rester fidèles au Seigneur et à son œuvre tout au long de leur vie, malgré l'opposition écrasante et les terribles épreuves qui en ont suivi. Nos expériences du divin ne sont peut-être pas aussi directes, ni aussi spectaculaires, ni nos difficultés aussi grandes. Mais comme les prophètes, nous trouvons la force de persévérer fidèlement en reconnaissant, nous rappelant et tenant pour sacré ce que nous recevons d'en haut. Aujourd'hui, l'autorité, les clés et les ordonnances ont été rétablies sur la terre. Il y a aussi les Écritures et des témoins spéciaux. Les gens qui recherchent Dieu peuvent recevoir le baptême pour la rémission des péchés et la confirmation par l'imposition des mains pour le baptême de feu et du Saint-Esprit. Avec ces dons rétablis, nos rencontres avec le divin se passeront principalement avec le troisième membre de la divinité, le Saint-Esprit. Dans un murmure doux et léger, l'Esprit me parle pour me guider, me sauver. Que l'Esprit soit avec nous, enseignant la vérité. Il témoignera du Christ, nous montrant sa volonté. En recherchant des réponses de Dieu, nous sentons le murmure doux et léger chuchoter à notre esprit. Les sentiments, les impressions sont si naturels et si subtils qu'il peut nous arriver de ne pas nous en apercevoir ou de les attribuer à notre raison ou à notre intuition. Ces messages individuels témoignent de l'amour personnel de Dieu et de son souci de chacun de ses enfants et sa mission personnelle dans la condition mortelle. En réfléchissant quotidiennement aux impressions qui viennent de l'esprit et en les notant, nous pourrons reconnaître nos rencontres personnelles avec le divin et conserver pour nous-mêmes et pour notre postérité ces choses. Le fait de les consigner est une façon de manifester officiellement à Dieu notre gratitude. Qu'il n'y a rien qui offense autant Dieu ou allume autant sa colère que ceux qui ne confessent pas sa main en toutes choses. Concernant ce que nous recevons par l'Esprit, le Seigneur nous rappelle, souvenez-vous que ce qui vient d'en haut est sacré. Sa déclaration est plus qu'un rappel. C'est aussi une définition et une explication. La lumière et la connaissance venant des cieux sont sacrées. Elles sont sacrées parce que les cieux en sont la source. Sacré signifie digne de vénération et de respect. En disant que quelque chose est sacré, le Seigneur signale que cela a plus de valeur et d'importance que les autres choses. Les choses sacrées doivent être traitées avec plus de soin, recevoir plus de déférence et être considérées avec une révérence plus profonde. Le sacré est placé plus haut dans la hiérarchie des valeurs célestes. Ce qui est sacré pour Dieu ne devient sacré pour nous que par l'exercice du libre arbitre. Chacun doit choisir d'accepter et de tenir pour sacré ce que Dieu définit comme sacré. Il envoie la lumière et la connaissance depuis les cieux. Il nous invite à les recevoir et à les traiter comme sacrés. Mais il y a une opposition en toutes choses. L'opposé du sacré est le profane, ce qui est temporel ou du monde. Le monde fait constamment concurrence au sacré pour avoir notre attention et nos priorités. La connaissance du profane est essentielle pour notre vie temporelle quotidienne. De plus, le Seigneur nous commande de rechercher la connaissance et la sagesse, d'étudier et d'apprendre dans les meilleurs livres et de nous familiariser avec les langues, les langages et les peuples. Par conséquent, le choix de placer le sacré au-dessus du profane est un choix de priorité relative, pas d'exclusivité. Être instruit est une bonne chose si on écoute les recommandations de Dieu. La bataille que se livrent le sacré et le profane pour avoir la priorité dans chaque cœur humain peut être illustrée par l'expérience de Moïse devant le buisson ardent. C'est là que Moïse a reçu des Jéhovah, son appel sacré à délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage. Mais la connaissance qu'il avait de la puissance de l'Égypte et du Pharaon l'ont fait douter. Finalement, Moïse a exercé sa foi en la parole du Seigneur, plaçant sa confiance dans le sacré avant sa connaissance profane. Cette confiance lui a donné le pouvoir de surmonter les épreuves temporelles et de le faire sortir Israël d'Égypte. Après avoir échappé aux armées du roi Noé, seulement pour tomber en esclavage entre les mains d'Amulon, Alma aurait pu douter du témoignage spirituel qu'il avait reçu en écoutant Abinadi. Néanmoins, il a fait confiance au sacré et a reçu la force d'endurer ses épreuves temporelles et d'y échapper. Joseph Smith a affronté un dilemme à l'époque où il traduisait le livre de Mormon. Il connaissait la nature sacrée des plaques et du travail de traduction. Il a pourtant été persuadé par Martin Harris de donner la priorité aux préoccupations du monde, qu'étaient l'amitié et les finances, en opposition aux instructions sacrées. Et en est résulté la perte du manuscrit de la traduction. Le Seigneur a réprimandé Joseph d'avoir livré ce qui était sacré au mal et l'a privé pendant un temps des plaques et du don de traduction. Quand Joseph a remis de l'ordre dans ses priorités, les choses sacrées lui ont été rendues et l'œuvre s'est poursuivie. Le livre de Mormon contient d'autres exemples de la lutte pour donner la priorité au sacré. Il parle de croyants conduits par leur foi à l'arbre de vie pour prendre de son fruit sacré, l'amour de Dieu. Puis les moqueries des gens du grand et spacieux édifice ont poussé les croyants à tourner leur attention du sacré vers le profane. Par la suite, les Néphites ont choisi l'orgueil et nié l'esprit de prophétie et de révélation, se moquant de ce qui était sacré. Fin de citation. Même des témoins oculaires, des signes et des prodiges accompagnant la naissance du Seigneur ont choisi de rejeter les manifestations sacrées venues du ciel en faveur d'explications profanes. Aujourd'hui, la lutte continue. Comme Elder Cook l'a enseigné hier, les voix du monde augmentent en volume et en intensité. Elles pressent de plus en plus les croyants d'abandonner les croyances que le monde considère comme irrationnelles et déraisonnables. Parce que nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, et que nous ne connaissons pas la signification de tout, nous pouvons nous sentir vulnérables et croire que nous avons besoin d'une plus grande assurance spirituelle. Dans cette citation, le Seigneur a rappelé à Oliver Cowdery, « Si tu désires un autre témoignage, Reporte-toi à la nuit où tu m'as invoqué dans ton cœur, afin de connaître la vérité de tout ceci. N'ai-je pas apaisé ton esprit à ce sujet? Quel témoignage plus grand peux-tu avoir que celui de Dieu? Le Seigneur a rappelé à Oliver et à nous de nous appuyer sur les témoignages sacrés personnels déjà reçus quand notre foi est mise à l'épreuve. Comme pour Moïse, Alma et Joseph autrefois, ces rencontres avec le divin servent d'encre spirituelle pour nous garder en sécurité sur le bon chemin dans les temps d'épreuve. Le sacré ne peut pas être abandonné d'une manière sélective. Les gens qui choisissent de laisser de côté ne serait-ce qu'une chose sacrée auront l'esprit enténébré. À moins qu'ils se repentent, la lumière qu'ils ont reçue leur sera ôtée. Sans l'encre du sacré, ils iront moralement à la dérive sur une mer profane. Par contre, les gens qui tiennent pour sacrées les choses sacrées reçoivent des promesses. Ce qui est de Dieu est lumière. Et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. Et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Puisse le Seigneur nous bénir pour qu'en tout temps, nous reconnaissions ce que nous avons reçu d'en haut, nous en souvenions et le tenions pour sacré. Je témoigne que si nous le faisons, nous aurons le pouvoir de persévérer dans les épreuves et surmonter les difficultés de notre époque. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un journaliste d'un grand magazine brésilien a fait des recherches sur l'Église en préparation d'un article de presse important. Il a étudié notre doctrine et a visité le centre de formation des missionnaires et des centres d'aide humanitaire. Il a parlé à des amis de l'Église et à d'autres personnes qui n'étaient pas trop amicales. Lors de son interview avec moi, il semblait vraiment perplexe en demandant « Comment peut-on penser que vous n'êtes pas chrétien ?» Je savais qu'il parlait de l'Église, mais j'ai, si vous voulez, pris la question comme si elle était personnelle. Et je me suis silencieusement demandé « Ma vie reflète-t-elle l'amour et la dévotion que je ressens pour le Sauveur ?» Jésus a demandé aux pharisiens, « Que pensez-vous du Christ ?» Lors du jugement final, ce ne seront pas nos amis ou nos ennemis qui jugeront si nous sommes vraiment des disciples. En fait, comme Paul l'a dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ce jour-là, la question importante pour chacun de nous sera, « Que pense le Christ de moi ?» Malgré son amour pour toute l'humanité, Jésus a reproché à certaines personnes autour de lui d'être des hypocrites, des insensés, et des gens qui commettent l'iniquité. Il en a qualifié d'autres avec approbation, d'enfants du royaume et de lumière du monde. Il a reproché à certains d'être aveuglés et stériles. Il en a loué d'autres pour la pureté de leur cœur et leur faim et leur soif de justice. Il s'est plaint de ce que certains étaient incrédules et étaient de ce monde, mais il a estimé que d'autres étaient choisis, disciples, amis. Nous nous demandons donc, chacun, que pense le Christ de moi? Le président Monson a dit de notre société actuelle qu'elle s'éloigne de ce qui est spirituel alors que les vents du changement tourbillonnent autour de nous et que le sens moral de la société continue de se désintégrer devant nos yeux. C'est une époque d'incrédulité et de mépris croissant vers le Christ et ses enseignements. Dans cet environnement turbulent, nous nous réjouissons d'être des disciples de Jésus-Christ. Nous voyons la main du Seigneur tout autour de nous. Notre destination est merveilleusement indiquée devant nous. La vie éternelle, a dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Être un disciple à cette époque déterminante sera une distinction honorifique à toute éternité. Les messages que nous avons entendus au cours de cette conférence
sont les panneaux indicateurs du Seigneur sur notre route pour devenir des disciples. Pendant ces deux derniers jours, nous avons écouté et prié pour être guidés spirituellement, et dans les jours à venir, nous allons étudier ces messages et prier à leur sujet. Et le Seigneur va nous bénir en nous donnant des directives personnelles grâce au don du Saint-Esprit. Ces sentiments nous tournent encore davantage vers Dieu. Nous amenons à nous repentir, à obéir, à avoir foi et confiance. Le Sauveur répond à nos actes de foi. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. L'appel de Jésus, « Viens et suis-moi », ne s'adresse pas seulement aux personnes qui sont prêtes à participer à des Jeux olympiques spirituels. En fait, devenir disciple n'est pas du tout une compétition, mais une invitation adressée à tous. Notre parcours de disciple n'est pas une course de vitesse autour de la piste, ou même un long marathon. C'est une migration qui dure toute une vie vers un monde plus céleste. Son invitation est un appel à accomplir son devoir au quotidien. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Il se peut que nous ne soyons pas au mieux de notre forme chaque jour, mais si nous essayons, l'invitation de Jésus est pleine d'encouragement et d'espoir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Où que vous soyez actuellement sur le chemin qu'empruntent les disciples, vous êtes sur le bon chemin, le chemin qui mène à la vie éternelle. Ensemble, nous pouvons nous fortifier et nous affermir mutuellement dans les jours décisifs à venir. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, les faiblesses qui nous limitent ou les impossibilités qui nous entourent, ayons foi au Fils de Dieu qui a déclaré « Tout est possible à celui qui croit ». Je vais vous donner deux exemples de disciples en action. Le premier est tiré de la vie du président Thomas S. Monson, illustrant le pouvoir de la gentillesse toute simple et de l'enseignement de Jésus. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Il y a près de 20 ans, lors d'une conférence générale, le président Monson a parlé d'une jeune fille de 12 ans atteinte d'un cancer. Il a parlé de son courage et de la gentillesse de ses amis qui l'ont porté en haut du mont Timpanogos. Il y a quelques années, j'ai rencontré Jamie Palmer Brinton et j'ai entendu l'histoire sous un angle différent, celui de ce que le président Monson avait fait pour elle. Jamie l'a rencontrée en mars 1993, le lendemain du jour où elle a appris qu'une grosseur, au-dessus de son genou droit, était un cancer des os en progression rapide. Aidé de son père, le président Monson lui a donné une bénédiction de la prêtrise, lui promettant « Jésus sera à ta droite et à ta gauche pour te soutenir. » Jamie a dit « Ce jour-là, en quittant son bureau, j'ai détaché un ballon fixé à mon fauteuil roulant et je le lui ai donné. En couleur vive, il était écrit « Tu es la meilleure ». Tout au long des traitements de chimiothérapie et de l'opération pour sauver sa jambe, le président Monson ne l'a pas oublié. Elle a dit, « Le président Monson a illustré ce que signifie être un vrai disciple du Christ. Il m'a fait passer de la tristesse à un grand espoir durable. » 3 ans après leur première rencontre, Jamie était de nouveau assise dans le bureau du président Monson. À la fin de leur entretien, il a fait quelque chose que Jamie n'oubliera jamais. Fidèle à sa prévenance coutumière, il l'a surprise en lui remettant le même ballon qu'elle lui avait donné 3 ans auparavant. Le ballon proclamé, « Tu es la meilleure !» Il l'avait gardé, sachant qu'elle reviendrait à son bureau quand elle serait guérie.
14 ans après leur première meeting,
14 ans après leur première entrevue, le président Monson a célébré le mariage de Jamie Palmer avec Jason Brinton au temple de Salt Lake City. Le disciple qu'est le président Monson nous apprend énormément de choses. Il rappelle souvent aux autorités générales de se souvenir de cette question simple. Que ferait Jésus? Jésus a dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Être un disciple consiste à croire en lui dans les moments de paix et à croire en lui dans les moments difficiles, quand notre souffrance et notre peur ne sont calmées que par la conviction qu'il nous aime et respecte ses promesses. J'ai récemment rencontré une famille qui est un bel exemple de la façon dont nous croyons en lui. Olgan et Soline Saint-Elus, de Port-au-Prince, Haïti, m'ont raconté leur histoire. Le 12 janvier 2010, Olgan était au travail et Soline à l'église quand un tremblement de terre dévastateur a frappé Haïti. Leurs trois enfants, Genji, 5 ans, Angie, 3 ans, et Gansley, 1 an, étaient dans leur appartement avec une amie. La dévastation était générale. Comme vous vous en souviendrez, des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie en Haïti en ce mois de janvier. Olgan et Soline ont couru à leur appartement pour retrouver leurs enfants. Le bâtiment de trois étages où vivait la famille Saint-Elus s'était écroulé. Les enfants n'avaient pas échappé. Aucun secours ne serait tenté pour fouiller un bâtiment qui était aussi complètement détruit. Olgan et Soline avaient tous deux été missionnaires à plein temps et s'étaient mariés au temple. Ils croyaient au Sauveur et aux promesses qu'il leur avait faites. Pourtant, ils avaient le cœur brisé. Ils ont pleuré à chaudes larmes. Olgan m'a dit que, dans ce moment particulièrement sombre, il a commencé à prier. Père Céleste, si c'est ta volonté, s'il pouvait seulement y avoir un seul de mes enfants en vie, s'il te plaît, aide-nous. Sans relâche, il a tourné autour du bâtiment en priant pour recevoir l'inspiration. Les voisins sont efforcés de le consoler et de l'aider à accepter la perte de ses enfants. Il a continué à tourner autour des décombres du bâtiment écroulé, en espérant et en priant. Alors, quelque chose d'absolument miraculeux s'est produit. Il a entendu les pleurs presque inaudibles d'un bébé. C'était ce de son bébé. Pendant des heures, les voisins ont fouillé frénétiquement les décombres, risquant leur vie. Dans l'obscurité de la nuit, au milieu du bruit intense des marteaux et des burins, les sauveteurs ont entendu un autre bruit. Ils ont cessé de taper et ils ont écouté. Ils ne pouvaient croire ce qu'ils entendaient. C'était le bruit d'un petit enfant qui chantait. Plus tard, Genji, 5 ans, a dit qu'il savait que son père l'entendrait s'il chantait. Sous le poids écrasant du béton qui allait nécessiter plus tard l'amputation de son bras, il chantait son chant préféré. Je suis enfant de Dieu. Au fil des heures, au milieu des ténèbres, de la mort et du désespoir de tant d'autres filles et fils précieux de Dieu en Haïti, la famille Saint-Elus a vécu un miracle. Genji, Angie et Gansley ont été découverts vivants sous le bâtiment écroulé. Les miracles ne sont pas toujours aussi immédiats. Parfois, nous nous demandons comment il se fait que le miracle que nous demandons avec tant de ferveur ne se produit pas tout de suite. Mais quand on fait confiance au Sauveur, les miracles promis se produisent. Que ce soit dans cette vie ou la suivante, tout sera réparé. Le Sauveur déclare, « Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je témoigne. Qu'en l'aimant, en lui faisant confiance, en croyant en lui et en lui suivant, vous ressentirez son amour et son approbation en demandant « Que pense le Christ de moi ?» Vous saurez que vous êtes son disciple, que vous êtes son ami. Par sa grâce, il fera pour vous ce que vous ne pouvez faire pour vous-même. Nous attendons avec impatience les paroles de clôture de notre prophète bien-aimé. Président Monson a été ordonné apôtre du Seigneur Jésus-Christ lorsque j'avais 12 ans. Depuis plus de 48 ans, nous avons la bénédiction de l'entendre témoigner de Jésus-Christ. Je témoigne qu'il est maintenant l'apôtre le plus ancien du Sauveur sur la terre. Avec un grand amour et beaucoup d'admiration pour les nombreux disciples de Jésus-Christ qui ne sont pas membres de cette Église, nous déclarons humblement que des anges sont revenus sur la terre à notre époque. L'Église de Jésus-Christ, telle qu'il l'a fondée dans les temps anciens, a été rétablie avec le pouvoir, les ordonnances et les bénédictions du ciel. Le livre de Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ. Je témoigne que Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Il a souffert, il est mort pour nos péchés, et il s'est levé le troisième jour. Il est ressuscité. Un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Christ. Ce jour-là, notre souci ne sera pas « Les autres considèrent-ils que je suis chrétien ?» À ce moment-là, toute notre attention lui sera consacrée et notre âme sera obnubilée par la question « Que pense le Christ de moi ?» Il vit. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mes frères et sœurs, nous aurons maintenant l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson. Après le discours du président Monson, le chœur clora cette conférence en chantant « Oh, j'ai besoin de toi ». Ensuite, Jairo Mazagardi, des 70, fera la prière de clôture et la prochaine conférence aura lieu dans 6 mois. Président Monson.
My heart is full.
Mon cœur déborde à la fin de cette glorieuse conférence. Ce bâtiment est rempli au maximum. Il n'y a pas un siège disponible. Nous avons été abondamment bénis d'écouter les recommandations et les témoignages des orateurs. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que nous avons ressenti l'Esprit du Seigneur. Notre cœur a été touché et notre témoignage a été fortifié. Une fois encore, nous avons apprécié une belle musique qui a amélioré et enrichi chaque session de la conférence. J'exprime ma reconnaissance à tous ceux qui nous ont fait profiter de leurs talents dans ce domaine. Je remercie également très sincèrement tous les orateurs de toutes les réunions, ainsi que les personnes qui ont fait les prières pour chaque session. À chaque conférence, d'innombrables personnes travaillent en coulisses ou à des postes moins visibles. Sans leur aide, il ne serait impossible de tenir ces conférences. Je leur adresse également à tous mes remerciements. Je me joins à vous pour remercier du fond du cœur les frères et les sœurs qui ont été relevés à cette conférence. Ils nous manqueront. Leur contribution à l'œuvre du Seigneur a été énorme et se fera sentir tout au long des générations à venir. Nous avons aussi soutenu, en levant la main, des frères et des sœurs qui ont été appelés à des nouveaux postes pendant cette conférence. Nous leur souhaitons la bienvenue et tenons à ce qu'ils sachent que nous sommes impatients d'œuvrer avec eux dans la cause du Maître. Ils ont été appelés par l'inspiration d'en haut. Cette conférence a eu une diffusion sans précédent, touchant des personnes du monde entier, par-delà les continents et les océans. Bien que nous soyons loin de beaucoup d'entre vous, nous ressentons votre esprit et votre consécration. Et où que vous soyez, nous vous exprimons notre amour et notre reconnaissance. Comme nous sommes bénis, mes frères et sœurs, d'avoir dans notre vie, notre cœur, l'évangile rétabli de Jésus-Christ. Il apporte des réponses aux plus grandes questions de l'existence. Il donne à notre vie un sens, un but et de l'espoir. Nous vivons en des temps difficiles. Je vous assure que notre Père Céleste est conscient des difficultés que nous rencontrons. Il aime chacun de nous et désire nous bénir et nous aider. Puissions-nous l'invoquer par la prière, comme il nous l'a recommandé quand il a dit, « Prie toujours, et je déverserai mon esprit sur toi, et grande sera ta bénédiction. » Oui, plus grande encore que si tu obtenais les trésors de la terre. Mes frères et sœurs, puisse notre foyer être rempli d'amour, de courtoisie, et de l'Esprit du Seigneur. Aimez votre famille. S'il y a des désaccords et des disputes parmi vous, je vous exhorte à les régler. Maintenant, le Sauveur a dit, il n'y aura plus de controverses parmi vous. Car en vérité, je vous le dis, celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi, mais du diable, qui est le père des querelles, et il excite le cœur des hommes à se quereller avec colère. Voici, ce n'est pas ma doctrine, mais c'est ma doctrine que de telles choses soient abandonnées. Fin de citation. Moi, votre humble serviteur, je me fais l'écho des paroles que le roi Benjamin adressait à son peuple, disant, je ne vous ai pas commandé pour que vous pensiez que de moi-même je ne suis plus qu'un homme mortel, mais je suis semblable à vous, sujet à toutes sortes d'infirmités de corps et d'esprit. Cependant, j'ai été choisi par la main du Seigneur et j'ai été gardé, préservé par sa puissance incomparable pour vous servir de tout le pouvoir, de tout l'esprit et de toute la force que le Seigneur m'a accordé. Fin de citation. Mes frères et sœurs bien-aimés, je désire de tout mon cœur faire la volonté de Dieu, le servir et vous servir. Au moment de quitter cette conférence, je demande au ciel de bénir chacun d'entre vous. Le bâtiment est plein. Retournez en sécurité chez vous. Lorsque vous allez méditer sur les vérités que vous avez entendues, et puissent-elles vous aider à devenir meilleur que vous n'étiez au début de la conférence il y a 2 jours. Jusqu'à ce que nous nous revoyions dans 6 mois, je demande au Seigneur de vous accorder ses bénédictions à tous. Oui, à tous. Et je le fais en son saint nom, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Father,
which oh, notre Père, qui est au ciel. En ce moment où se termine cette merveilleuse conférence, avec douceur et humilité, nous inclinons la tête devant toi. Te rendons grâce pour les enseignements reçus de prophètes, voyants et révélateurs. Et Père, maintenant, alors que nous partons aux quatre coins de cette terre, vers nos foyers, avec ces enseignements, puisse nous aider à les appliquer dans nos vies et protéger nos familles et bénir ceux à notre portée. Protège-nous pour rentrer chez nous. Que ton esprit reste avec nous. Nous te remercions d'avoir été en présence de prophètes. Nous te remercions pour notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Et c'est en son saint nom que nous te prions, au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd.
Vous venez d'assister à une session de la 182e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.